Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est le plus grand plan social depuis le début de l'année. Le géant de la grande distribution, Casino, annonce la suppression de 1200 à 3200 emplois. Un choc pour cette enseigne née à Saint-Étienne en 1898. Avec Casino, c'est la suite d'une série noire de plans sociaux, de faillites d'entreprises, Habitat, Camailleux, San Marina, Célio, Sanofi et encore aujourd'hui, on vient de l'apprendre, Duralex, placé en redressement judiciaire, 230 salariés sont concernés. C'est dans le Loiret. Dans ce contexte, c'est pas une surprise. Les chiffres du chômage ont cessé de baisser et repartent à la hausse. Le retour du social avec des menaces de grève également avant les JO qui obligent le gouvernement à éteindre les incendies en urgence. Les contrôleurs aériens qui menaçaient de faire grève ont obtenu cet après-midi un accord qui n'empêchera pas toutefois de grandes perturbations demain dans les aéroports. À la SNCF, la direction a cédé aussi à la pression et aux menaces de grève avec un accord, paraît-il, on va en parler, très généreux qui, selon l'opposition, permet même aux salariés de l'entreprise de s'extraire de la réforme des retraites. SNCF Aéroport, le jackpot des grèves, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué à la rédaction des Échos, vous êtes éditorialiste à France Inter. Citons votre édito de ce matin, simplification, le double cerveau du gouvernement, on en reparlera aussi à la fin de l'émission. Gilles Dansart est avec nous ce soir, vous êtes journaliste spécialiste des transports et des questions de mobilité. Vous êtes rédacteur en chef du site Mobilettre. Nathalie Saint-Cric est avec nous, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Je rappelle votre livre, L'ombre d'un traître aux éditions de l'Observatoire. Enfin, Martial You, vous êtes rédacteur en chef du service économie et sociale à RTL. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce C'est dans l'air en direct. On va commencer par Casino, par Duralex, mais d'abord Casino parce que c'est un plan social d'ampleur, je le disais, entre 1200 et 3200 emplois supprimés. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce géant de la grande distribution ?
C'est l'histoire d'une descente aux enfers annoncée. C'est-à-dire, c'est un groupe qui, il y a quelques années, avait 200 000 salariés dans le monde, donc absolument considérable, et qui, aujourd'hui, a 28 000 salariés. De 200 000 à 28 000. C'est un groupe qui a grandi notamment par l'endettement. Alors, pour que nos téléspectateurs voient bien, donc c'est la marque Casino, mais Monoprix, minoritairement, mais important quand même, Franprix, bien sûr, les petits casinos de centre-ville, et puis des grands supermarchés qu'on a vus un peu partout en
Naturalia.
France, et de Naturalia, bien sûr, et d'autres marques. Donc, c'est des milliers, des milliers de magasins. Ce groupe a souffert de la hausse des taux et d'une politique, j'allais dire, de boule de neige, d'endettement. Et quand les taux ont augmenté, eh bien, le groupe s'est retrouvé étranglé. Il a été repris par un chef d'entreprise tchèque, Daniel Kretinsky, qui est maintenant occupe une place importante dans le paysage des affaires français. Et les grands supermarchés ont été vendus soit Auchan, soit Intermarché. Et les petits supermarchés restent, mais la situation financière et l'endettement colossal fait qu'il a fallu, il faut aujourd'hui cette annonce de plusieurs milliers de licenciements, de départs volontaires, ouais. un plan social.
Martial You, c'est une mauvaise gestion, citons par exemple le porte-parole de l'intersyndicale de la CGT qui dit à propos de l'ancien patron de Casino qui s'appelle Jean-Charles Naouri, pour nous c'est le Bernard Madoff à la française. Ça n'est que ça, entre guillemets, ou est-ce que c'est un contexte économique inquiétant, un ralentissement économique dont on va aussi parler ce soir?
Il y a évidemment un mauvais timing, c'est-à-dire que ça tombe, les difficultés de Casino qui sont un surendettement abyssal au fil des années, c'est à ajouter en fait à ça le fait qu'il y avait l'inflation, la crise de la déconsommation d'une partie des Français, et donc évidemment vous avez deux phénomènes qui s'ajoutent, c'est le suraccident. Là il y avait plus aucun moyen de sauver Casino qui était déjà très endetté, et en fait la seule solution qui a été trouvée, c'est de dire on va essayer de baisser les prix pour essayer de revenir dans le jeu des Leclerc, des Carrefour ou des Système U. Sauf que lorsque vous baissez les prix, alors que votre structure de coût est très importante, bah vous attaquez vos marges et vous continuez à creuser votre dette.
Mais voilà, il y a eu un moment donné où c'était à la mode d'être endetté. Il y avait plein de grands groupes français très endettés.
Sauf que les taux d'intérêt sont remontés, et lorsque vous avez des taux d'intérêt qui remontent et que vous avez des dettes à rembourser, c'est un peu comme l'État d'ailleurs en ce moment, et bah vous vous retrouvez avec un poids du remboursement qui est plus important. C'est comme si vous aviez votre maison avec des taux d'intérêt qui évoluent et non pas des taux stables comme on les connaît en France. Bah, dans ces cas-là, vous vous retrouvez très en difficulté.
Dans une configuration comme celle-ci, avec une enseigne très identifiée des Français qui emploie de nombreux salariés, est-ce que le gouvernement a son mot à dire ? Est-ce qu'il y a eu des alertes lancées en direction de cette entreprise ? Parce que des alertes financières sur Casino, en préparant son émission, cette émission, j'en ai quand même trouvé quelques-unes. Comment est-ce qu'on a réagi à Bercy ?
Tout le monde. Je ne sais pas, mais c'était attendu, puisque effectivement, vous parlez d'un cercle vicieux, c'est-à-dire on est endetté, plus on est endetté, moins on investit, moins on se développe, plus on essaie de remonter les prix, mais on ne peut pas. Et il y a quand même un facteur personnel dans la gestion de Jean-Charles Naouri qui fait qu'il n'était pas connu pour écouter beaucoup de sonnettes qui étaient tirées, que les banques le suivaient plus ou moins, parce que de toute façon, le lâcher, ça aurait été catastrophique pour les banques. Mais quand même, il a déjà été question, il y a eu des rachats qui se sont posés en 2018, en 2019, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui leur tombe sur la figure et qui était absolument imprévu. Et du côté du gouvernement, on est sensible. On est notamment sensible, indépendamment du fait que quand on a des nouveaux chômeurs, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de la politique du gouvernement, bien sûr. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des marques familières.
Bien sûr.
C'est-à-dire, quand on a du Ralex, on a tous eu ça à la cantine.
Le petit verre avec l'âge.
Le petit verre, pas très joli, mais enfin bon, quand même. Quand on a Casino, c'était presque devenu un nom commun. Je vais à mon Casino.
Ouais. Donc,
mais ça fait quelque chose.
Vous dites familier, pardon, je vous coupe, juste pour donner ces chiffres-là, Nathalie Saint-Cric, pour vraiment mettre des chiffres derrière ce que vous expliquez. 6000 petits magasins de proximité, 861 Monoprix, Naturalia, il y en a 1191 des Franprix, non, c'est des Franprix, 1191, 37 Leader Price, puisque c'est aussi sous cette marque ombrelle de Casino. Il y en a au coin de la rue, partout.
Il y en a, et Pierre, parce que je ne suis pas une spécialiste de la grande distribution, ou même de la moyenne distribution, mais manifestement, justement, il y a certains groupes qui ont pris le virage en se disant il faut moins d'hyper, mais il faut avoir des surfaces plus petites et plus proches, plus urbaines pour pas qu'on ait à la périphérie. Donc il y a tout un travail de marketing, d'investissement. Alors je n'ai pas, moi, à mon niveau petit, à juger un chef d'entreprise, mais il y a eu quand même pas mal d'alertes. Cet endettement en spirale, ça tient, comme vous le disiez, il y a le mode d'être endetté, oui, sauf quand les taux d'intérêt montent et que l'inflation monte.
C'est juste que j'ai le souvenir que de temps en temps, des grands patrons qui sont un peu borderline sont convoqués à Bercy, on leur fait la leçon, on les met en alerte.
Jean-Charles Naouri est un ancien collaborateur, là, ça va remonter vraiment pour
les
téléspectateurs les plus anciens, à Béré-Gouvois, donc c'est il y a très très longtemps. On a toujours dit que c'est un génie de la finance. Bon, à un moment, les génies sont rattrapés par la réalité. Vous savez, on dit souvent, quand vous devez à votre banque 1 million, c'est votre banque qui vous tient. Quand vous devez à votre banque 1 milliard ou 2 milliards, vous tenez votre banque. On ne sait pas très bien qui contrôle qui. Et il y a eu un certain nombre d'alertes. Manifestement, les contre-pouvoirs dans ce groupe n'ont pas fonctionné. Conseil d'administration, parties prenantes, banques. Et donc, en fait, on est arrivé à un cercle vicieux. Alors, attention, tous les magasins ne ferment pas, loin de là. J'ai dit qu'un certain nombre sont repris. Il y en a 300 qui sont repris par Intermarché et Auchan. C'est les plus grandes surfaces. Voilà.
Et on parlait de ce groupe endetté. Il y a des petits porteurs qui ont beaucoup perdu dans ce dossier-là, puisqu'il y avait 8 milliards d'euros de dettes qui sont partis en fumée. Donc, des petits actionnaires de Casino qui se retrouvent là pour le coup perdant. Non, juste Gilles Dansart, sur ce sujet-là, vous voulez dire un mot ?
Oui, ce sont des marques auxquelles les Français sont attachés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à aller vers ces marques à n'importe quel prix. C'est-à-dire que c'est un secteur hyper concurrentiel. Ils se font la guerre de façon extrêmement forte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la puissance des politiques marketing, ils peuvent créer des marques assez rapidement. On voit en France des marques, on peut en citer, hein, je pourrais citer Grand Frais par exemple, qui est en train de pulluler dans beaucoup de villes et qui arrivent même à Paris et qui sont en train de supplanter des marques qui étaient bien installées. Donc c'est très concurrentiel et si effectivement on s'arrête d'investir, de moderniser, de rénover une politique de prix, une politique commerciale, une politique d'image, eh bien on a assez vite des difficultés. C'est vraiment impitoyable comme c'est sûr.
Le groupe peut tout à fait rebondir parce que le nouveau propriétaire, Daniel Kretinsky, est notamment actionnaire majoritaire de la Fnac Darty. Fnac Darty, c'est un redressement. Alors que c'est l'équipe ancienne, mais il a participé au redressement assez considérable de ce groupe. Il y a un avenir pour le groupe.
Nathalie Saint-Cré, vous vouliez ajouter quelque chose
par rapport à Dominique, parce que je suis un peu moins bien élevée que lui, que Jean-Charles Lavoura a toujours fait partie d'une espèce de... Comment dire, pas d'intelligentsia, mais de groupe de patrons, c'est pas quelqu'un à qui on va faire la leçon qu'on convoque en lui disant mon petit bonhomme,
va falloir faire mieux. Quand on est à Bercy, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, oui. On très peut secret. C'est quelqu'un de très secret, je vois pas rentrer dans certains détails, mais c'est quelqu'un qui n'est pas. Qui fait ce qu'il veut. Mmh. Voilà.
Donc. On en connaît d'autres, hein, des grands patrons qui font ce qu'ils veulent, non?
Oui, mais alors quand ils réussissent, on ne les critique
d'accord,
pas.
D'accord, ok.
Et en fait, ce qui peut sauver en réalité une marque comme Casino aujourd'hui, c'est ce que disait un peu Dominique à l'instant, c'est-à-dire qu'on on redimensionne ce groupe. Ouais. C'est-à-dire que les hypermarchés, les supermarchés ont été vendus à des concurrents, Intermarché, Auchan, Carrefour, parce que c'est un marché très éclaté, très atomisé, vous avez beaucoup d'acteurs. Donc à un moment donné, il faut faire le ménage, c'est ce qui vient d'être fait avec Casino, il y en aura peut-être avec d'autres groupes, et puis vous reconstruisez un groupe autour de la proximité, puisque désormais, dans le giron de Casino, vous avez effectivement Franprix, Monoprix, c'est-à-dire des marques de proximité et de centre-ville. Donc vous retrouvez une forme de cohérence qui peut sauver le groupe.
Nous faisons un point sur Casino et nous allons parler d'autres enseignes qui sont allées au tapis avec un contexte et un climat qui s'assombrit, on va le dire comme ça. Et on a appris cet après-midi, je le disais, hein, ce qui s'est passé chez Duralex, avec non pas une cessation d'activité, mais qui a été placé en redressement judiciaire avec 230 salariés qui sont concernés. Donc c'est une ancienne, on l'a compris, hein, qui fait partie du quotidien des Français, on vient d'en parler, la plus ancienne d'ailleurs chaîne de supermarchés en France qui a annoncé la suppression de plusieurs milliers de salariés, on parle de 1200 ou 3200, le plus grand plan social depuis le début de l'année alors que l'horizon sur le terrain de l'emploi s'assombrit depuis plusieurs mois avec des faillites en série dans le prêt-à-porter, dans l'habitat sur lesquels nous allons revenir. Aubry Perrault, Diane Cacciarella et Nicolas Baudry-Dasson.
Grosse inquiétude chez les salariés de Casino. Entre 1293 et 3267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe.
Annonce ce matin de la nouvelle direction du groupe de grande distribution aux représentants du personnel.
L'information circulait depuis des mois. La voilà qui devient officielle. Ce matin, la direction de Casino, qui possède les enseignes Monoprix ou Franprix, confirme une vague de licenciements à venir.
Derrière les postes, il y a des salariés, il y a des gens, il y a des personnes. Et que, en tout cas, là maintenant, à l'heure qu'on est et au moment où je vous parle, chaque salarié ici au siège social de Saint-Étienne et à Paris aussi se demande s'il sera concerné.
Ces dernières semaines, les salariés criaient leur colère face à une gestion défaillante, selon eux, avec plus de 6 milliards d'euros de dettes. Le groupe défend aujourd'hui un projet de transformation. Cession de certains magasins à ses concurrents Intermarché et Auchan, et rénovation des autres.
Nous allons investir significativement dans les points de vente d'ici 2028, afin de les moderniser et les réhumaniser.
Un pari pour relancer l'Empire Casino. D'ici là, la plus ancienne chaîne de supermarchés en France rejoint la longue liste des plans sociaux du moment. Le géant pharmaceutique Sanofi prévoit la suppression de 300 postes en France. La Société Générale aussi, avec des milliers d'emplois en moins dans les mois à venir. Casse sociale également dans le secteur de l'immobilier, de l'habillement ou encore de l'ameublement, avec l'enseigne Habitat, placé en liquidation judiciaire en décembre dernier.
Il y a encore tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on a laissé en partant.
Marie-Paul Couder y a passé 35 ans, une carrière qu'elle pensait terminer là où elle l'a commencé.
Moi, j'avais 22 ans quand j'ai commencé chez Habitat, donc toute ma carrière chez Habitat, je me voyais terminer sans problème et demander la médaille du travail depuis tant d'années dans la même enseigne, quoi.
Cette niçoise compte bien retrouver un travail, mais à son âge, elle redoute un parcours du combattant.
Quand on a 58 ans, on a déjà notre manière de penser. On n'est pas malléable. On n'est pas manipulable. On l'est quand on a 20 ans. Et puis les salaires ne sont pas les mêmes. On ne va pas demander le minimum du minimum.
L'emploi des seniors, un caillou dans la chaussure du gouvernement, alors que le chômage repart à la hausse cette année, dépassant les 7%.
Le plein emploi en France, c'est 7%. Dans les autres pays développés, c'est 5%. Donc il faut s'interroger, se demander pourquoi est-ce que l'écart est de 2 points entre le plein emploi en France et le plein emploi dans les autres pays développés.
Et pour inverser les courbes, Gabriel Attal mise sur une réforme une de plus de l'assurance chômage pour endurcir encore les conditions.
Évidemment que on peut se retrouver avec un coup dur, des difficultés dans la vie, un genou à terre, et que c'est non seulement normal, mais c'est une chance qu'en France, il y ait un modèle de solidarité qui permette de vous accompagner dans ces difficultés. Mais ce modèle de solidarité, il doit toujours avoir, pour moi, un sens, c'est être tourné vers l'activité. Parce que ce qui permet véritablement de sortir de la précarité, c'est le travail.
Le Premier ministre entend réduire la durée et le montant des allocations. Et tant pis si le dialogue avec les syndicats est au point mort.
Là, ça serait la 5e réforme de l'assurance chômage si elle passait. Les précédentes n'ont même pas été évaluées. Et il n'y a jamais aucun lien qui a été fait entre le fait de réduire les droits des chômeurs et de faire baisser le chômage. Un enfant de 5 ans le comprendrait.
Et pourtant, c'est la solution prônée par l'exécutif qui annonce que les nouvelles règles entreront en vigueur dès le 1er juillet.
C'est bien. Vous étiez déjà en pleine discussion sur le reportage qu'on vient de voir. Cette question de Christophe, qui est vendeur, il dit « J'ai 53 ans, je travaille dans un casino qui va fermer, je vais être au chômage, seul avec mes 2 enfants, comment vais-je payer mon loyer ?» C'est ça, la réalité, oui. Parce qu'on est là, on manie des chiffres, 1200, 3500, d'ailleurs c'est un écart qui est extrêmement large. Bah, la réalité, que, c'est celle-ci. Hein.
Voilà, l'écart s'explique parce qu'aujourd'hui, il y a dans le parc un certain nombre de magasins qui doivent être vendus et on n'est pas certain d'avoir des repreneurs en face. Donc la variable, elle est sur est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on ne vend pas, et donc est-ce qu'on reprend ou pas les salariés qui sont dans ces magasins-là. Et c'est vrai qu'il y a un drame social qui est en train de se jouer à l'échelle. Moi, ça me fait penser aussi à PSA quand ils avaient fermé Aulnay. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous savez, quand vous avez des groupes comme ça, vous avez des plans sociaux qui sont des charrettes, beaucoup de guillemets, de plusieurs milliers de gens. Et on a toujours du mal à le quantifier, ça. Mais on a un drame humain. Et en général, lorsque vous avez un plan social à un endroit, dans un groupe, il faut se dire qu'il y a x2, x3 en emploi indirect, parce que ces groupes-là sont extrêmement implantés localement et font travailler tout un type.
Là, c'est Saint-Étienne pour Casino.
Là, évidemment, c'est Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard est le créateur de Casino. Et évidemment que Saint-Étienne, c'est aussi le stade de Geoffroy Guichard. Ouais. Et ce sont des marques qui sont à la fois implantées au niveau territorial et en plus implantées régionalement. Ce sont des monuments géographiques. Ouais. Quand vous parlez de Leclerc, vous parlez de la Bretagne. Quand vous parlez d'Auchan, vous parlez du nord de la France. Et quand vous parlez de Casino, vous parlez de Saint-Étienne, effectivement.
Gilles Dansard, vous
voulez dire ? Il pourrait même y avoir un deuxième effet, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on parle pour Saint-Étienne de 500 licenciements environ, mais ça pourrait être davantage parce que s'il n'y a pas le programme de cession espéré, eh bien, il y aura une deuxième vague. Donc, ça pourrait être encore pire que ce que c'est aujourd'hui. Alors, pour les salariés de la
Cette question de Robin, Casino, Sanofi, je l'ai cité rapidement tout à l'heure. Alors, on peut rajouter à la question de Robin, Duralex, et ensuite.
Alors, ce sont des cas.
Qu'est-ce qui est en train de se passer ?
Ce sont des situations assez différentes. Il y a le cas Casino, on l'a expliqué, c'est vraiment une affaire très particulière. Duralex, c'est le prix de l'énergie. C'est le prix de l'électricité, la flambée incroyable du prix de l'électricité et du gaz au moment de la guerre en Ukraine et après, qui a, parce qu'on consomme, quand on fait de la verrerie, on consomme énormément d'électricité, puisque c'est chauffé, évidemment, très très fort. Et donc cette entreprise a été d'abord sauvée. Le gouvernement a donné un coup de main, a mis un peu d'argent, il a espéré que ça marcherait, et manifestement, ça ne marche pas. Attention, il faut voir si cette procédure, ce qui vient d'être annoncé là, on le découvre
bien
ensemble,
sûr.
Si c'est une étape de procédure et qui déclenche peut-être un sursaut derrière, avec une nouvelle piste, ou si c'est une fin, je ne dirais pas que c'est une fin pour l'instant. Le cas de Sanofi est totalement différent. C'est une entreprise considérable, qui gagne beaucoup d'argent, et qui a décidé, sur ses équipes de recherche, de faire un changement de type de recherche. Il passe de l'oncologie classique à l'immunologie. donc qui est une autre pour les immunothérapies. Oui. Donc ce qui est autre chose.
C'est pour ça qu'ils suppriment 330 postes.
J'imagine, ce que je comprends, c'est que les types de chercheurs ne sont pas exactement les mêmes. Sauf que les syndicats disent, attendez, c'est bien gentil, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on nous annonce des plans successifs de réduction de, des équipes de recherche. Donc c'est un peu curieux, puisque la recherche, c'est ce qui doit porter Sanofi. Sanofi, malheureusement, ils sont dans un mauvais mood, enfin, si je peux dire. C'est une mauvaise passe. Hein. Depuis le Covid, il y a quand même assez peu de choses positives qui sont sorties de Sanofi.
Depuis le Covid et l'absence de vaccins.
Et l'absence
c'est à ça
de
que,
vaccins,
que vous faites référence. Mais on pourrait citer aussi toutes les marques liées à l'habillement. Oui. À l'habillement, Célio, on en a parlé. Pinka, Pinky, Lal, Aubêtement, Camailleux, Habitat. Il y a quand même une série noire avec ce chiffre, plus de 17 000 défaillances d'entreprises en France au plus haut depuis 9 ans. C'est le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. À quel moment sommes-nous ?
Il y a d'abord la liste de nos dépendances qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on est moins bon qu'il y a quelques années sur la recherche et le développement. On est dépendant du gaz, c'est Duralex. On est évidemment dépendant de la flambée des prix et d'une baisse du pouvoir d'achat, c'est Casino. Ça, c'est la liste de nos faiblesses qu'on est en train d'énumérer d'une part, dans notre économie. Ensuite, vous avez aussi un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que pendant les années Covid, on a vitrifié. Il y a des entreprises qui auraient dû faire faillite et qui ont été soutenus artificiellement par l'État qui prenait le relais des salaires. Et donc aujourd'hui, quelque part, on est en train de rattraper ce qui ne s'est pas passé pendant 2 ans. Donc,
pardon, ça n'est que ça, entre guillemets, c'est pas...
Les deux, c'est ce que je vous dis, à la fois nos dépendances, nos faiblesses, plus derrière un rattrapage qui explique qu'on remonte assez fortement, parce que c'est vrai qu'on est à plus 32% de faillite en février par rapport à l'année d'avant. Donc il y a un phénomène à la fois d'accélération liée à ce rattrapage et de fragilité sur une économie qui ralentit depuis quelques
temps. On peut peut-être le dire autrement, il y a une limite au soutien public forcené de l'économie. C'est-à-dire qu'on est dans des sommes, j'ai rarement vu, de subventions publiques aux entreprises et qu'il y a un moment, quand la conjoncture se retourne ou quand l'énergie coûte plus cher ou d'autres problèmes conjoncturels, eh bien, ça finit par ne plus donner d'effets positifs
sur un certain nombre d'activités.
Voilà. Et donc, les entreprises publiques sont plutôt protégées et plus globalement, tout un secteur de l'économie est protégé. L'énergie, par exemple, a été très protégée et d'autres secteurs plus sensibles, par exemple, à la consommation et à la déconsommation, eh bien là, elles subissent de plein fouet.
Ça veut dire que le choc est très rude pour les salariés du privé.
Le choc est rude pour une partie des activités. Pas le privé contre le public, mais pour un certain nombre d'activités, le choc est rude en ce moment.
Pas tout le monde, en fait.
Pas tout le monde.
Ça a l'air d'être inhumain de parler de gens comme ça, comme on voyait la dame disant qu'elle avait toujours travaillé à un endroit. Mais il y a quand même une liste de magasins moyen de gamme ou bas de gamme, un petit peu au-dessus du bas de gamme, qui se sont pris dans la figure toute la concurrence depuis le Covid avec le numérique, c'est-à-dire qu'on fait ses courses sur Internet, mais des courses de tout. Ça va de la des chaussures aux sous-vêtements, en passant par un certain nombre de choses. On a des sites qui sont extrêmement bien faits, on a des livraisons qui sont extrêmement rapides, on peut les renvoyer, on peut les récupérer, on peut changer. On a les déclarations des femmes, des hommes, qui est de dire qu'en gros, l'achat dans l'habillement a baissé par rapport au nombre de pièces qu'on achetait avant. Donc on achète moins. Est-ce de la décroissance, je ne sais pas. On achète de la seconde main, ça peut même devenir quelque chose de à la mode ou de branché entre guillemets. Ouais. Donc il y a des modifications de comportement d'achat qui font que quand vous allez sur le site de certaines enseignes, vous avez l'impression d'être il y a 50 ans et que quand vous vous mettez avec des sites, notamment des sites étrangers aussi, qu'il peut y avoir sur Internet, c'est plus facile, c'est moins cher. Et pour ceux qui adorent la fast fashion, c'est-à-dire que on achète des choses qui sont différentes tous les deux jours, on le fait.
Et pas cher.
Et donc il y a des entreprises aussi qui n'ont pas forcément. Alors je ne suis pas là systématiquement à dire qu'il faut avoir pris des tournants ou être un roi du marketing, mais il y a un moment donné où quand.
Ils sont sanctionnés, c'est ça.
C'est plus cher que ce qui n'est pas cher et moins cher que ce qui est très chic. Ouais. L'arbitrage peut se faire pour des choses peu chères et de temps en temps une pièce qui plaît.
Mais est-ce que ce qu'on est en train de commenter, vous disiez plus 35% en février de défaillance d'entreprise, c'est énorme.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'au sommet de l'État, il y a quand même une inquiétude? On rappelle que le travail, la baisse du chômage est quand même une des priorités du gouvernement.
Il y a une inquiétude puisque l'idée d'Emmanuel Macron, c'était dans la suite de la politique de l'offre de François Hollande. Alors la politique de l'offre, c'est pas un terme très... C'est simplement, on aide les entreprises, et puis on les aide, et puis comme ça les entreprises vont bien, on leur enlève les impôts de production, ci et ça, elles embauchent, elles salarient des gens, il y a moins de chômeurs, ça reprend, les chômeurs ont de l'argent, ils achètent. Bon, je fais vraiment l'économie pour les crétins, c'est à peu près mon niveau. À partir du moment où c'était, lui n'avait pas lié son sort comme François Hollande à la courbe du chômage, mais c'était ça l'idée. Et quand il a commencé à dire on a des bons résultats, on a vu automatiquement que les préoccupations des Français, l'emploi, nous qui avons été élevés avec sans arrêt l'idée qu'on naîtrait, qu'on vivrait, qu'on mourrait avec un taux de chômage explosif, que ça allait s'arranger. Là, non. Pas vraiment, donc bien sûr. Mais vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est la fin d'un cycle ou le début d'un nouveau ? Leur analyse, c'est que c'est les deux. Et que, comme disait Gilles, on n'est pas dans une économie administrée. Donc, il y a un moment donné, sans être darwiniste, on peut aider une entreprise, on peut l'aider. Et il y a des choses qui sont faites. Mais il y a un moment donné où, si les mêmes erreurs produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que certaines gammes n'essaient pas de se renouveler. Regardez certaines entreprises qui marchaient très bien, comme Zara, qui s'est implantée avec des renouvellements permanents. Voilà, mais ces modèles-là, ça change tout le temps. Donc il y a une inquiétude, mais l'idée aussi qu'il faut s'adapter très rapidement actuellement au changement économique pour ne pas être à la traîne.
Les chiffres du chômage qui repartent à la hausse,
le gouvernement qui en plus repartent à la hausse, et là on en a des incarnations. C'est plus frappant quand on nous dit plus catégorie A, mais quand on voit Minelli, San Marina ou je ne sais pas quoi.
Le changement se voit dans le paysage français.
C'est ça se voit dans les commerçants.
On voit qu'il y a des zones commerciales qui deviennent complètement abandonnées. Ouais. Et la croissance des zones logistiques, on le voit le long des routes, des autoroutes, c'est phénoménal. Ouais. Donc il y a un transfert, effectivement, d'une économie de proximité, de centre-ville, de zones commerciales, vers de l'e-commerce, et ça crée des frottements.
C'est peut-être, effectivement, comme le dit Gilles, il faut insister sur l'idée de transfert. Au total, les emplois, l'économie française continue à créer des emplois jusqu'à la fin de l'année dernière. Les chiffres ont été bons. Donc je pense qu'il ne faut pas donner l'idée d'un paysage qui serait uniformément noir. Il y a des secteurs en difficulté, on les évoque, mais il y a des secteurs qui embauchent. Il y a des secteurs qui embauchent, par exemple, on n'a jamais autant recruté de cadres qu'en 2023 et 2024 a l'air d'être sur la même lancée. Dans l'intelligence artificielle et le numérique, les besoins sont immenses. Dans les usines de batteries qui se créent dans le nord de la France, c'est immense. Et vous avez dans les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, vous avez donc...
Mais le chômage repart à la hausse.
Le chômage, alors, il est repassé il est remonté légèrement à la hausse, on va voir ce qu'il en est, mais il reste très en dessous de ce qu'il était il y a 5 ou 10 ans.
Vous êtes en train d'expliquer que ça n'est pas si grave et que peut-être on est au bout d'un cycle de rattrapage, d'adaptation. C'est parfois difficile à entendre.
C'est grave pour les personnes, le téléspectateur tout à l'heure, pour chaque personne concernée, il n'y a aucun doute, surtout quand on est dans une économie en mutation où des emplois se détruisent et d'autres se créent. Il ne faut pas donner l'impression qu'on raisonne simplement en macroéconomie, c'est-à-dire c'est l'économie hydraulique, c'est-à-dire je remplis une baignoire, ça sort par là, et au total, tout va bien. Pas du tout. Mais il y a des vraies transformations, par exemple, dans l'automobile. Dans l'automobile, on parle de plans sociaux chez Forcia, chez Valeo, des réductions d'effectifs, parce que quand on passe du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est toute une économie qui change. Mais il y a aussi des emplois qui se créent.
Est-ce que dans ce contexte-là, de défaillance d'entreprise, ce climat-là, où des grandes enseignes identifiées par les Français vont avoir, à mon avis, une actualité sociale assez forte, avec des gens qui vont se faire entendre et qui vont souffrir de ces suppressions de postes, est-ce que dans ce contexte-là, la réforme de l'assurance chômage peut être un peu ajusté, modifié, ou est-ce que c'est gravé dans le marbre, le retour au travail, la baisse des indemnités, puisque c'est ce qui a été évoqué, même si c'est peut-être plus d'actualité, et le raccourcissement de la durée d'indemnité.
Là, la difficulté, c'est un problème de timing, effectivement. C'est-à-dire que lorsque vous avez d'un côté des comptes publics qui sont dans un rouge écarlate et qu'il faut trouver de l'argent, et que la solution qui vous est apparue la première, la plus évidente, c'est d'aller jouer sur les allocations chômage, et que, parce que le chômage était plutôt un non-problème depuis 2-3 ans, vous annoncez ça au moment où le chômage remonte, la Banque de France nous annonce un 7,88% de chômage à la fin de l'année, donc on est bien sur une tendance qui repart, évidemment vous vous retrouvez en termes de communication, c'est un peu complexe, c'était sans doute pas le moment de durcir les conditions d'accès aux allocations chômage au moment où le chômage remonte. Bon, pas de chance. Après, c'est vrai aussi qu'il y a une économie qui bouge très très vite. Vous savez quelle est l'enseigne préférée des Français aujourd'hui? C'est Action. Et Action, c'est typiquement une marque qui n'existait pas en France il y a 10 ou 15 ans et qui est sur l'ultra low cost. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français consomment le petit prix. Donc évidemment, sur une économie qu'on avait un peu premiumisée, c'est-à-dire qu'on avait dit la France va s'en sortir parce qu'elle a une main-d'œuvre assez chère en proposant des produits haut de gamme, eh ben, ça n'est plus l'attente. Lorsque vous avez, on parlait de Casino au tout début, Casino a misé énormément sur le bio, en se disant, là c'est un marché qui depuis 10-15 ans progresse et il y a de la valeur ajoutée, il y a de l'argent à se faire sur ce marché-là, eh ben, on est aujourd'hui, avec la crise de consommation, sur un marché qui régresse. Donc là encore, pas de chance dans le timing, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, la difficulté de l'économie en ce moment, c'est qu'on est à une charnière. Vous avez d'un côté des phénomènes économiques, des révolutions industrielles comme l'intelligence artificielle qui va créer évidemment des emplois, mais vous avez le vieux monde qui est en train de perdre les siens et ce sont des centaines d'emplois qui sont menacés en réalité.
Et dans ce contexte-là, certains seraient tentés d'y voir un deux poids, deux mesures. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que la SNCF tente de contourner la réforme des retraites qui a envoyé des milliers de personnes dans la rue? Le sujet a de quoi hérisser les Français. Face à la menace d'une grève pendant les ponts du mois de mai, les quatre syndicats représentatifs de l'entreprise ont signé avec la direction un accord sur les fins de carrière. Accord plutôt généreux, qui offre une cessation d'activité anticipée pour permettre un départ à la retraite plusieurs mois avant la fin de la limite d'âge légale. Les explications, Léa Demirjian et Christophe Roquet.
La réforme des retraites ne s'appliquera pas à eux. Lundi, la SNCF et quatre syndicats de l'entreprise se sont entendus sur un dispositif de cessation anticipée d'activité. L'accord permet d'aménager les fins de carrière.
Alors c'est un dispositif qui existait déjà, sauf qu'avec l'allongement des carrières, on étend ce dispositif, c'est-à-dire on augmente la durée de période non travaillée et on va un peu mieux la rémunérer.
Concrètement, les fins de carrière seront scindées en deux périodes. La première, le salarié travaille et est payé à 100%. La seconde, il ne travaille plus, mais reste payé à 75%. En cas de métier pénible pour les conducteurs, par exemple, ils auront 75% de leur salaire pendant 15 mois. Ce sera 18 mois pour les contrôleurs. Au total, 140 000 cheminots seront concernés. Et si cet accord mettait un terme à plusieurs années de bras de fer? Car entre les syndicats et la direction de la SNCF, c'est une longue histoire de rapport de force. Décembre 2022, le mouvement de grève des contrôleurs échappe aux syndicats et perturbe le trafic à Noël.
Ne pas pouvoir voyager dans une période qui est celle de Noël, sincèrement, c'est inacceptable.
Le gouvernement monte alors au créneau.
À Noël, on ne fait pas la grève, on fait la trêve.
Irresponsable pour rester poli, mais ma pensée est un peu plus virulente que celle-là.
À l'époque, ce contrôleur nous racontait, visage caché, la pénibilité de son métier.
Le chef de bord, il a à peu près entre 7 et 9 jours de déplacement hors de chez lui. Donc ça représente à peu près, dans sa carrière professionnelle, à 8 ans, où il dort en dehors de chez lui. Alors il travaille entre 2 et 3 week-ends par mois. Et chef de bord a 21 tâches de responsabilité au niveau de son train. Donc il n'est pas que uniquement contrôleur.
Aujourd'hui, avec ce dispositif, est-ce la fin du bras de fer? Le président de la SNCF salue un accord historique, selon ses propres mots.
Le dialogue entre la direction et les organisations syndicales donne des résultats. Cet accord prouve la capacité de la SNCF à nourrir un dialogue social équilibré.
Un accord approuvé par les usagers.
C'est un bon accord qui permet à M. Farandou de prouver que la négociation sociale est possible à la SNCF. Mais surtout, c'est un bon accord pour les usagers parce que moins de grèves, c'est moins d'ennuis.
Depuis que le dispositif a été rendu public, à l'extrême droite, on valide.
C'est le contournement de la réforme des retraites, mais au bénéfice des salariés. Mais la SNCF le dit très clairement, il s'agit d'un investissement pour la SNCF parce que ça fait autant de gens qui n'iront pas se mettre en arrêt maladie, autant de gens qui n'iront pas cesser de travailler quand arrivera la fin plutôt de leur carrière professionnelle. Donc la SNCF le dit très bien. Pour nous, c'est plutôt un investissement car donc vous, ça gagnera de l'argent avec ça.
Les Républicains, eux, fulminent.
Faut que les Français le sachent.
C'est une capitulation. Le chantage a payé.
Ah, c'est un chantage.
Le chantage à la grève a payé, voilà. Le chantage a payé, mais la gréviculture a gagné.
Les syndicats se défendent de toute forme de chantage.
C'est très démagogique. On a des gens qui écrivent des lois. Loi qui, pour certains métiers, et pas que le métier de cheminot, hein, ça concerne les entreprises de BTP, ça concerne plein de secteurs d'activité. Oui, la loi, elle consacre un allongement des carrières. Elle dit vous allez travailler jusqu'à 64 ans. Il faut juste intégrer que pour certains métiers, c'est pas possible.
Selon le dernier baromètre Posternak IFOP, qui suit la réputation et l'image que les Français ont des grandes entreprises tricolores, la SNCF figure à la 30e et dernière place.
Vous parliez de la marque préférée des Français. On a compris que ce n'est pas la SNCF. Hein. On va revenir sur tout ce qui a été dit dans ce reportage. Je voudrais vous poser d'abord cette question de Gérard en Haute-Vienne. L'État peut-il accepter qu'une entreprise publique défasse une loi de la République ? Dominique Seux.
Alors, ça n'est pas formellement le cas, mais c'est vrai que le symbole, et d'ailleurs les syndicats qui ont signé, notamment la CGT et Sudrail signe rarement des accords, franchement. Ouais. Très très peu. Et ils le disent d'ailleurs, c'est extraordinaire.
Ils le disent. L'accord permet de compenser en partie les effets néfastes de la réforme.
Et ils ont même, d'autres ont dit, de contourner, de ne pas appliquer une loi que nous n'apprécions pas. Donc là, il y a un petit problème. Alors après, on peut rentrer à l'infini dans la technique des choses. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est un vrai contournement juridiquement? Non. C'est-à-dire, il y a un accord qui existait, qui permettait de partir plus tôt. Cet accord est amplifié. C'est vrai que le symbole pour l'ensemble des salariés du privé, qui est de dire les contrôleurs qui étaient en grève, qui menaçaient à nouveau de faire grève pour les JO, oui. Qu'on dise vous pouvez partir pendant les 18 derniers mois de votre carrière, vous êtes chez vous, payé à 75% par l'entreprise, quand on demande, donc c'est moins 18 mois, et pour les salariés du privé, c'est plus 24 mois. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui semble un peu de poids, de mesure.
Le chantage a payé. Voilà ce que dit Bruno Retailleau. Menace de grève sur les JO, en ce moment, ça peut fonctionner pour signer des accords. Hein.
Oui, les réactions qu'on a entendues sont assez disproportionnées. Parce que, trois éléments pour mesurer un peu le débat. Premièrement, c'est le gouvernement lui-même, après la réforme des retraites, qui a demandé à la SNCF de travailler à la fin des carrières, histoire de dire amortisser un peu l'effet sur les cheminots de cette loi. Donc c'est une consigne qui a été donnée. Donc lui-même peut difficilement dire aujourd'hui « Ah ben, je suis surpris, c'est un détricotage de ma loi ».
C'est pas ce que dit le gouvernement. Hein.
Il avait conscience, le gouvernement, que ça pouvait être assez brutal pour un certain nombre de métiers pénibles. Deuxième chose, les chiffres qui circulent, Bruno Retailleau dit « ça coûte 300 millions », c'est totalement faux. C'est quelque chose qui est sans doute entre 20, 25, peut-être 30 millions au maximum. Une journée grève à SNCF, c'est 20 millions. Pour donner la mesure. Donc ça n'est pas non plus un scandale en matière de finances. Et d'ailleurs, l'entreprise, depuis les accords, les lois Larcher, et encore plus depuis la réforme de SNCF de 2018, les rôles sont bien définis. Il y a la loi, puis après, chaque entreprise prend ses décisions, ce sont des sociétés anonymes. Et donc là, le président Farandou a pris ses responsabilités. Et troisième chose, alors ça peut paraître un peu technique, mais c'est essentiel, y compris pour le voyageur. Si la SNCF peut mieux prévoir la sortie de ses effectifs, au lieu de subir des départs en retraite, parce que les cheminots ne partent pas à l'âge légal la plupart du temps, ils continuent 2, 3, 4 ans comme tous les salariés pour avoir le nombre de trimestres suffisant. Avec cet accord, la SNCF peut mieux prévoir les départs et mieux prévoir le remplacement des métiers un peu sensibles. Et aujourd'hui, c'est un des gros soucis qu'elle connaît, c'est-à-dire qu'elle subit des départs assez nombreux, pas très bien maîtrisé de ses salariés. Donc, du point de vue de la SNCF, ça n'est pas détricoter une loi, c'est faire en sorte d'avoir de la paix sociale, c'est vrai, mais aussi d'améliorer un peu sa gestion
prévisionnelle. C'est peut-être ça qui, dans ce contexte qu'on vient de commenter depuis le début de l'émission, hein, avec des salariés qu'on a entendus qui se retrouvent sur le carreau, comme on dit, c'est sans doute ça qui heurte, c'est l'idée de dire, on va menacer de grève sur les ponts, les vacances ou les JO, et d'un coup trouver une oreille attentive sur des sujets où on a demandé collectivement aux Français de faire un effort.
C'est sans doute perçu comme ça par un certain nombre, mais je ne crois pas que ce soit l'ambition ou l'esprit de cet accord.
Pourquoi ils disent ça, les syndicats, alors ? Pourquoi ils le disent eux-mêmes ?
Sudrail est un grand spécialiste de la lecture politique des accords, mais c'est sans doute à l'intérieur de l'entreprise quelque chose de plus, de plus
factuellement complet. C'est quand même 18 mois de moins d'un côté, 2 ans de plus oui, de l'autre, et malgré puis la loi. Si on résume les choses.
Ouais, et puis sur du salaire fixe, sachant que les catégories concernées ont une grande partie d'éléments variables de ce qu'on appelle les EVS de solde, que donc c'est 75% du fixe, alors que la moitié du salaire est de la moitié du salaire est en variable. Donc il faut tout ramener. C'est moins scandaleux que ce qu'on veut bien dire. C'est plus solide du point de vue de la
Corse. Martial, il n'est pas tout à fait d'accord.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une prime à l'emmerdement maximal, c'est-à-dire que vous êtes dans le privé, vous êtes salarié de chez Casino, vous pouvez manifester dans les rues de Saint-Étienne, ça va pas changer grand-chose. Vous êtes aiguilleur du ciel ou cheminot, là, d'un seul coup, on a un moyen de pression qui est beaucoup plus important. Donc, on voit bien que c'est le rapport de force, et c'est un peu ce qui est triste, c'est que dans ce pays, la négociation sociale, elle se fait sur le rapport de force avant d'être autour de la table. Bon, donc ça, c'est quand même un peu choquant. Après, je suis assez d'accord avec Gilles, si on regarde la ligne d'horizon, au loin, effectivement, les cheminots, globalement, partent un tout petit peu plus tard qu'avant. Il y a là ce qui se passe, ce qu'on est en train de commenter, c'est un peu, moi ça me fait penser à la fameuse clause du grand-père, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on évoquait en disant voilà, la clause du grand-père c'était quoi ? C'était on maintient les conditions des vieux cheminots et puis bah, tous les nouveaux qui débarquent, qui signent un nouveau contrat et qui n'ont plus le statut. Eux, ils ont moins d'avantages. Voilà, c'est un peu ça.
C'est-à-dire ça donne le sentiment que c'était une réforme des retraites en trompe-l'œil, où on a demandé clairement aux Français de faire un effort.
Le côté. On demande en ce moment en plus à tous les Français de faire un effort parce que, comprenez, la France est quand même très endettée. Et puis, vous en avez quelques-uns qui ramassent les quelques miettes qui restent à manger autour du gâteau. Bon, bah, évidemment que ça crée de l'injustice et un sentiment de...
Pardon.
Vous trouvez, mais vous d'abord, vous laissez parler Nathalie Saint-Cré.
Non, mais politiquement, c'est pas... On peut toujours dire que c'est plus compliqué, qu'on pourrait expliquer d'ailleurs un tas de sujets. On nous fait l'autorité, on nous fait les retraites et en gros on a l'impression, alors après d'après ce que j'ai cru comprendre, le gouvernement n'était pas spécialement au courant. Tout le monde va nous expliquer maintenant qu'ils n'étaient pas au courant. Après, on nous fait valoir du côté de la SNCF qu'en fait tous les gens qui sont aux clauses du grand-père vont partir plus tôt et que comme ça on pourra faire avec des nouveaux qui ne seront pas clauses du grand-père et que ceux-là qui seront avec un contrat normal. Mais bon, l'habillage, globalement, c'est dans un pays qui a toujours tendance à avoir fait du fonctionnaire bashing et de l'entreprise publique bashing, qui dire ils foutent rien, ils travaillent et ils peuvent bloquer le pays. C'est quelque chose qui, à quelques semaines des élections européennes, n'est pas forcément hyper positif, même si on doit nuancer, bien évidemment, en fonction des pertes respectives.
Est-ce que ça coûte aux contribuables ?
Alors, ça coûte formellement, encore une fois, non, c'est l'entreprise qui va payer, mais les liens financiers entre l'entreprise et l'État, c'est-à-dire nous, le contribuable, sont tellement importants, croisés, compliqués à lire dans tous les sens, qu'à la fin, ça coûte quand même au contribuable indirectement. Mais encore une fois, c'est le symbole politique qui est le plus fort, et avec quelque chose qui est, je crois, exécrable, qui est que cet accord favorise ceux qui sont au statut, c'est-à-dire les plus âgés qui sont en train de partir ou qui vont partir dans les 5 ans, dans les 10 ans, alors que les nouveaux embauchés, ceux qui sont embauchés en contrat, j'allais dire, de droit privé classique depuis 2020, eh bien, eux, ils n'auront évidemment pas ce type de conditions. Donc c'est tout pour moi, rien pour les autres. Je trouve ça un peu étrange comme méthode.
Il y avait un contexte quand même particulier qui sont les Jeux Olympiques. D'ailleurs, tous les gouvernements depuis 40 ans ne donnaient qu'une seule consigne au président de la SNCF, qu'il ait été Louis Gallois, Guillaume Pépi, aujourd'hui Jean-Pierre Farandou, c'est pas de grève. Donc, a fortiori pour les Jeux Olympiques, il fallait apaiser le climat social. Donc peut-être que le gouvernement a une baguette magique, mais en l'occurrence, il y a un président d'entreprise qui a pris une décision qui est pour... peut-être un symbole politiquement difficilement vendable, qui est de dire...
C'est mieux que les grèves en juillet.
Je vais calmer les choses. C'est un choix politique de chef d'entreprise qui obéit à sa tutelle.
Est-ce que c'est ce qui s'est passé aussi avec les contrôleurs aériens ?
Contrôleurs aériens, il y a une consigne pareille. N'emmerdez pas les Français au mois de mai. Il a fait moche pendant plusieurs mois. Les gens ont envie de partir. Il y a des ponts, etc. Et là, vous menacez de faire grève pendant le viaduc du 8, 9, 10, 11 mai. Calmer le jeu, et ils ont calmé le jeu, et même si il y aura des perturbations demain jeudi, le jeu va se calmer. Donc là aussi, le gouvernement ne veut pas qu'il y ait des désordres d'ici les Jeux Olympiques.
Mais c'est maintenant qu'il faut négocier dans ces entreprises-là, c'est ce qu'ils font.
Mais l'agenda des contrôleurs aériens a été fixé depuis longtemps.
Voilà,
il est indépendant, là, c'est vraiment une réforme européenne.
Il y a une vraie réforme européenne qui va changer la donne, qui va améliorer les routes, la productivité. On va peut-être enfin savoir combien de temps travaillent les contrôleurs aériens. En tout cas, c'est ce que dit la Direction générale de l'aviation civile. Les routes des avions vont être améliorées, donc il y aura peut-être des économies de carburant, il y a un certain nombre de choses. C'est une réforme qui sont beaucoup plus structurelles. Oui. Voilà. Et il y a effectivement un prix à payer. Ce qui est extraordinaire, et je parle sous contrôle de Nathalie, dans l'affaire SNCF, comme les contrôleurs aériens, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement tombe des nues à chaque fois. Hier, il nous dit, je crois qu'Emmanuel Macron, au Conseil des ministres ce matin, ou juste avant le Conseil des ministres, a dit à Gabriel Attal, le Premier ministre, j'aimerais bien qu'on y voit plus clair sur l'affaire SNCF. Attendez, il y a des articles dans la presse depuis 10 jours. Donc soit ils ne lisent pas la presse, soit les équipes ne font pas leur travail, soit on nous baratine un peu, ce qui n'est pas totalement impossible, ce qui peut arriver même aux gens les plus doués. Mais quand même, il y a un problème de fonctionnement.
Oui, à tel point qu'il y a eu quand même un texte de loi qui a été proposé par le Sénat, qui réglementerait, parce que vous souvenez que Nicolas Sarkozy avait adopté un service minimum, qu'il avait même dit que maintenant, quand il y avait la grève, on ne s'en rendait pas compte, ce qui n'est pas totalement vrai, mais qu'il y a actuellement au Sénat un texte de loi qui réglementerait certaines choses, c'est-à-dire les départs en vacances, les week-ends, comme ça existe d'ailleurs dans un pays comme l'Italie, alors peut-être parce qu'il est plus catholique que nous, puisque quand c'est Pâques, les jours fériés, les jours saints, ou je ne sais pas quoi, on n'a pas le droit de faire grève et personne ne hurle. Mais ce projet-là, on n'a en gros pas répondu aux sénateurs, parce qu'on sait très bien que les interdictions, où là, on préfère céder, et c'est quelque chose, c'est comme les serpents de mer. Certains trucs, les services minimums, il y en a aucun. Tout le monde a essayé, il y en a qui ont eu des problèmes, surtout des problèmes, et ils ont rarement réussi.
Vous parlez de serpent de mer.
Ça n'empêche pas du tout que tous les contrôleurs individuellement soient absolument charmants, les conducteurs aussi. Je le dis parce que nous prenons tous le train quand même régulièrement.
Il ne peut pas être contrôlé.
Et d'une certaine manière, c'est une bonne guerre.
Allez, il y avait cette question de Jean-Luc en Haute-Marne, rapidement, ne faut-il pas craindre l'effet boule de neige après cet accord signé à la SNCF ? Non, ça se fait dans le privé, ce genre d'accord.
Alors, c'est très important.
La cessation progressive d'activité, c'est quand même mieux d'avoir un accord de ce type-là que d'avoir des licenciements sur des salariés à 54, 55, 56 ans, pris en charge par l'État. Là, il faudrait qu'une enquête de la puissance publique montre combien ça coûte à l'État, ces faux licenciements pour se débarrasser des salariés plus âgés. Donc, il faut remettre les choses aussi
à leur juste... Est-ce que ça va faire boule de neige ? La réponse est oui. Dans un secteur, les dockers. C'est le prochain sujet. Ce sont les dockers qui, eux aussi, sont en train... C'est une histoire de fin d'accord amiante. Et les dockers souhaiteraient qu'on puisse appliquer les conditions de cessation d'activité à des sites où il n'y a pas d'amiante.
Pour faciliter la vie des entreprises, vous parliez tout à l'heure de serpents de mer. Et Bruno Le Maire a une idée. Débarrasser les entreprises de la paperasse, c'est l'objectif du ministre de l'Économie. Il estime que la norme coûte 3 points de PIB au pays, soit l'équivalent de 84 milliards d'euros. Alors il s'attelle à un chantier dont on parle, je pense, depuis le début des années 70, la simplification. 1800 formulaires CERFA vont disparaître progressivement. La feuille de paye sera simplifiée et toute future réglementation devra être testée par les petites et moyennes entreprises, Léa Seux, Lucas Cambici et Aurélie Saner.
Une fiche de paye soumise à un sérieux régime. C'est le symbole choisi par le gouvernement pour son plan de simplification. Simplifié, l'exécutif en a fait son combat. Et pour le mener à bien, il fallait bien un projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres par Bruno Le Maire.
La simplification, nous la démarrons aujourd'hui avec ce projet de loi, nous la poursuivons et nous allons la poursuivre chaque année. Et désormais, il y aura un rendez-vous annuel de simplification tous les printemps.
Exit, paperasse, normes inutiles et lourdeurs administratives. Des politiques appelant leur administration à faciliter ces procédures, rien de neuf sous le soleil de France.
La simplification, c'est compliqué.
Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le moins de papiers possible.
Le gouvernement a souhaité la généralisation de toutes les procédures, donc mettre toutes les procédures en ligne d'ici 2005.
Ce sont quelques actes significatifs sur la simplification des procédures et des formalités qui interviendront d'ici la fin de l'année.
L'administration est elle aussi concernée. Elle doit se mettre à la portée des hommes. Elle doit les aider à résoudre les nombreux problèmes de leur vie quotidienne sans multiplier les démarches, les contrôles et les papiers.
Et il y a beaucoup d'argent en jeu. 84 milliards d'euros précisément, selon un rapport du Sénat. Alors pour le ministre de l'économie, il est urgent d'agir.
Les déclarations d'arrêt maladie aujourd'hui. Un salarié va chez le médecin envoie ça à la sécurité sociale. Et ensuite, il faut que le chef d'entreprise lui-même renvoie à la sécurité sociale. C'est 15 millions de formulaires chaque année. On va le supprimer.
Même chose pour les 26 millions d'attestations d'assurance chômage adressées chaque année à France Travail. D'ici 2026, Bruno Le Maire veut même voir disparaître 80% des 1800 formulaires CERFA qui existent aujourd'hui. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises valide la philosophie générale, mais alerte sur de fausses bonnes idées.
Si on veut faire plaisir au plus grand nombre, donc aux salariés, bien évidemment, proposer de simplifier un bulletin de paye avec une lecture beaucoup plus synthétique, c'est une bonne chose pour le salarié, mais ça ne changera en rien la complexité du traitement de la paye pour l'employeur, donc pour les entreprises. Je dirais même, ça va même la complexifier parce qu'il faudra reparamétrer les logiciels de paye et ça ne sera pas gratuit. Et de toute façon, il faudra la double édition. Pourquoi ? Pour avoir ce bulletin simplifié pour le salarié et pour pouvoir avoir en double le détail de ce bulletin simplifié au cas où le salarié, très légitimement, demanderait ben, où est passé mon argent.
En tout, Bercy prévoit 50 mesures. La moitié fera l'objet d'un projet de loi discuté au Sénat à partir du 3 juin prochain.
Ouais. Un reportage de Léo Seux, je précise, qui n'est pas de votre famille.
Je le confirme, en tout voilà, cas, à ma connaissance.
Dit. C'est dit. On va revenir sur les annonces de Bruno Le Maire. Cette question d'Alexandre, qui est banquier et qui nous dit « Sommes-nous au devant d'une nouvelle crise sociale et économique en France ?»
Je ne suis pas sûr, hein. Parce qu'on a, quand même...
Non, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein,
non, mais c'est plutôt... Que... Oui, oui. Mais pourquoi je fais un peu la... Je fais grise mine, c'est parce que j'ai le sentiment qu'on a aussi une France amorphe qui vient quand même de sortir d'une série de crises successives qui fait qu'on est sans doute un peu assommé et une France un peu fracturée. Pour qu'il y ait un mouvement social, il faut qu'il y ait une solidarité entre les gens. Qu'il y ait des thèmes en commun qui vous fassent descendre dans la rue. Et là, j'ai le sentiment qu'on a plutôt des gens qui se replient sur eux-mêmes et qui gèrent la fin du mois avant de gérer la fin du monde ou le combat global.
Oui. Ouais. Il s'est passé plein de choses depuis la fin du Covid, y compris un peu d'euphorie post-Covid. Mmh. On revoit toutes ces façons de vivre, le rapport au travail, le rapport au loisir, etc. Et que là, il y a sans doute quelque chose d'un peu, une période un peu entre deux. Et ça fait naître des interrogations, des peurs, mais plus un climat économique incertain. Donc c'est une période un peu entre deux et on ne sait pas trop où ça va aller. Donc difficile de faire un pronostic. Hein.
Et justement, le moral des chefs d'entreprise dans ce moment-là, est-ce qu'ils sont enclins à se lancer dans des grands investissements en ayant confiance en l'avenir ?
Les chefs d'entreprise sont un peu déçus que la croissance n'ait pas rebondi comme elle l'avait déjà rebondi en 2021 après le Covid. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des plans sociaux, parce que les entreprises ont gardé leurs effectifs en se disant « ça va repartir comme en 40 ». Et en fait, ça n'est pas reparti comme en 40, plutôt c'est reparti brièvement en 2021 et 22. Mais évidemment, la crise de l'énergie et de la guerre en Ukraine a changé la donne. Donc il y a une vraie incertitude. Mais le fond de l'air, si je puis dire, le fond de l'air, c'est quand même que les entreprises voient les transformations, c'était évoqué par Martial tout à l'heure, les transformations énormes liées à l'écologie, enfin à l'environnement, et liées à ce qui domine l'économie mondiale aujourd'hui, qui est le retour des frontières, et le retour des subventions. C'est-à-dire que l'Europe est le continent qui a créé la paix entre les États, qui s'est développé depuis la dernière guerre mondiale, grâce au commerce et aux échanges. Et on voit bien que et la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre sont partis dans un autre modèle, qui est celui du protectionnisme et du côté des subventions à outrance. Et l'Europe se dit... Est-ce que mon modèle est encore le bon ? Elle voit bien que ce n'est plus le bon, mais c'est tellement consubstantiel, les échanges, à sa vie et à la paix qui a été construite sur notre continent, qu'il y a une vraie interrogation. Et donc, c'est normal que ça mette une dizaine d'années à construire un autre modèle, mais c'est en cours.
Et la simplification dans tout ça ?
On en est loin.
Alors, c'est une des recettes de Bruno Le Maire. Alors, on a vu dans ce très bon reportage que ça ne date pas d'avant-hier, hein, ce sujet, cette préoccupation-là. C'est une attente, c'est un gadget. Est-ce que ça peut être utile,
Nathalie Sinclair ? Moi, je pense que... Non, ça serait facile de dire que c'est un gadget. Chacun de nous, à peu dans sa vie quotidienne, courante, se rendre compte qu'il y a des connexions de fichiers, que quand on paie avec un CESU, on va vous chercher vos impôts, et comme ça, vous n'êtes pas obligé. Enfin, qu'il y a quand même des choses qui se font beaucoup plus simplement. Des pièces d'identité, il y a des choses qu'on n'est pas obligé d'aller se déplacer, de faire la queue, de demander un numéro. Bon, donc il y a une... Alors, on a l'impression que la simplification... il y a des choses qui sont des aberrations. Alors, on continue à en enlever régulièrement. L'avantage de ça, c'est que ça ne coûte rien. Parce qu'il faut quand même voir le gouvernement dans la situation dans laquelle il est. C'est-à-dire que pour montrer qu'on réforme et pour montrer qu'on fait quelque chose jusqu'au bout, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, vous voyez, il n'y a pas tant de chantiers qui sont faciles. Celui-là est censé, enfin, dire aussi ce que dit Bruno Le Maire, rapporter de l'argent. Donc, effectivement, et surtout, manifestement, pour le coup, quand on voit que les PME, globalement, et les chefs d'entreprise, d'abord, ont été concertés, et qu'ensuite on va leur donner raison et qu'on va faciliter la vie des PME qui sont quand même des entreprises qui emploient beaucoup de gens et qui sont un tissu très vivant, c'est-à-dire que pour les appels d'offres, pour les procédures de marché, pour les choses, le fait qu'ils soient obligés de se payer des comptables qui sont chers, pour le fait qu'on leur allège l'existence, c'est quand même quelque chose qui me semble ne pas relever du gadget. Le côté gadget, c'est... enfin, gadget, le côté un peu, c'est Bruno Le Maire, un peu le printemps de la simplification. Voilà, on a l'impression qu'il y aura un avant et un après. Bon, l'idée, c'est que on est sur la bonne voie, ça a commencé.
Ça coûte rien, c'est ça, surtout ce qu'il faut retenir. Voilà.
Non, mais c'est sûr, ça coûte rien. C'est probablement que si on peut plus facilement aider les PME à se concentrer sur l'innovation, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au lieu de passer leur temps à faire des trucs comme ça.
On parlait de ce qui sera le plus visible pour les gens qui nous regardent ce soir, c'est la simplification de la feuille de paye. En quoi ça facilite la vie des entreprises? Elles feront de toute façon des feuilles de paie.
Alors, c'est vrai que si on veut jouer sur les mots, on était déjà avec aujourd'hui une fiche de paie censée être plus simple. Déjà, simplifié. Bon, bah là, on en aura une encore plus simplifiée, puisqu'on va passer de 55 lignes aujourd'hui à 12, 13, 14. Bon, dans la démarche de Bruno Le Maire, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de dire, non pas je fais un grand choc de la simplification qu'on a déjà entendu depuis 40 ans, mais on va se revoir tous les ans. Alors, il appelle ça un printemps.
Et le test, dont parlait Caroline.
Mais voilà. Ouais. Tous les ans, on passe au crible la simplification et on essaie d'élaguer un tout petit peu. Maintenant, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que j'ai regardé Dalloz, qui est l'éditeur du Code du travail, du Code pénal, etc. Dalloz a fait les comptes et en 20 ans, on a augmenté de 52% les normes. Donc, c'est un peu le lézard administratif. Vous coupez une norme, il en repousse une à côté. Donc, du coup, c'est ça le risque. C'est qu'on simplifie d'un côté, puis qu'en même temps, vous ayez d'autres complexifications qui apparaissent. Et c'est ça qu'il faut arriver à corriger, quoi.
Alors, je vais utiliser une autre formule, mais qui veut dire la même chose que celle que Martial. C'est-à-dire, c'est très bien de vouloir vider la baignoire. Encore faut-il fermer le robinet. La baignoire, on enlève des normes, on enlève des guichets, etc. Mais si, par ailleurs, on continue d'arriver avec des nouvelles normes, par exemple le zéro artificialisation des sols. C'est très bien pour l'écologie. Mais les entreprises vous disent tout, mais où est-ce que j'ouvre mon prochain entrepôt? Puisqu'on parlait de la logistique tout à l'heure. Le gouvernement, par ailleurs, approuve, est en cours d'approbation d'un accord social qui a été signé hier sur le compte épargne-temps universel, le CETU, c'est-à-dire la portabilité des congés tout au long de la vie. Je n'ai pas pris mes congés avec mon ancien employeur, donc j'arrive devant le nouveau en lui disant, attendez, n'oubliez pas, j'ai des anciens congés, ça va être porté par la Caisse des dépôts, cette affaire-là. Est-ce que c'est extrêmement simple pour les entreprises? J'ai l'ombre de l'esquisse d'un demi-doute. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas à la fois nous dire, on vide la baignoire et laisser le robinet ouvert.
Mais il faut aussi que les Français, enfin nous, on soit cohérents. C'est-à-dire que les normes, ce n'est pas forcément des fonctionnaires débiles profonds qui décident pour empoisonner les gens de faire des choses. On est demandeurs de normes. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ce soit un fait divers, que ce soit un balcon qui tombe, que ce soit quelque chose qui brûle, que ce soit un enfant qui se blesse, que ça, on demande à ce qu'il y ait une nouvelle règle. Il y a des choses formidables. Bien sûr qu'il faut que les hôtels aient des règles et de réglementation, d'évacuation, de handicap pour accès à tout le monde. Mais il y en a certaines qui disent « je ne peux pas faire les investissements ». Donc il faut aussi que chacun, que nous voulions pas être protégés pour tout et que l'administration y réponde et qu'on se plaigne.
Un chiffre, le volume du code du commerce a augmenté depuis 2002
500-300%.
364%.
Ouais. Ouais.
Et on cite quand même cette phrase qui est culte de Georges Pompidou, mais arrêtons d'emmerder les Français. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays. On en crève. C'était en 1966. Allez, on revient à vos questions.
Et beaucoup de morts sur la route.
Cette question de Gérard. J'ai toujours eu un casino sur ma route quand je rentrais du travail et c'est le seul supermarché dans un rayon de 25 km. Comment vais-je faire ? C'est pas sûr qu'il ferme.
C'est pas, alors, un, c'est pas sûr qu'il ferme. Deux, il peut être peut-être modernisé, changé, adapté. Mais au total, le nombre quand même de ceux de ce moyenne, petite et grande surface diminue en France. Et c'est est-ce que Gérard va devoir fonctionner par Internet, pas pour les courses du quotidien, mais peut-être pour les vêtements ou ce genre de choses.
Cette question de Philippe, du coup, en Dordogne. Donc, un grand patron gère mal son entreprise et ce sont les employés qui sont virés, c'est bien ça ? C'est ce qu'on retient de la première partie de notre émission. Vous nous avez expliqué, c'est Jean-Charles Naouri, à un moment donné, qui a endetté Casino de manière déraisonnable. Ah,
on sort quand même, pardon, de quelques années où l'État a dit « on s'occupe de tout ». Parce qu'il y avait la crise Covid, parce qu'il y avait aussi la crise de l'énergie, et que là, bah, il ne peut pas s'occuper de tout. Donc oui, il y a des brutalités capitalistiques, pour reprendre des termes consacrés.
Et puis il y a ce mythe de l'homme providentiel ou indispensable qui existe beaucoup dans l'entreprise. On a connu ça avec Carlos Ghosn, on connaît ça avec Elon Musk aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire l'espèce de dieu vivant en cravate que personne n'ose véritablement contredire et qui reste dans sa logique. Si vous ajoutez à ça un caractère, soyons gentils, un peu psychorigide de quelqu'un comme M. Naouri, vous avez évidemment beaucoup de mal à faire bouger l'homme de ses convictions. Donc, oui, mais... c'est ça qui, parfois, vous emmène dans le mur.
Carlos Tavares, sa rémunération scandalise, mais il dit, écoutez, moi, j'ai fait remonter l'entreprise, je distribue l'argent à mes salariés, je réussis.
C'est ce que vous disiez jusqu'à présent, donc, c'est-à-dire que personne ne lui a demandé des comptes jusqu'à ce que le groupe échoue et soit obligé de licencier.
Oui, c'est vrai. Ce qui est particulier, c'est qu'il était actionnaire et dirigeant. Ouais. Que quand les deux sont dissociés, c'est quand même un garde-fou.
Peut-on affirmer, c'est Régis en Côte d'Or qui nous pose cette question, peut-on affirmer que le nouvel accord signé par les syndicats de la SNCF est une sorte de pied de nez au gouvernement ?
En tout cas, les syndicats le disent. Alors, on est tenté de les croire.
Bon. SNCF, en plus de cet accord discutable, les prix des billets de TGV flambent, normal. On n'a pas parlé, quand on a parlé de la SNCF, c'est ça
Ça nourrit le ressentiment des Français vis-à-vis de la SNCF. Il n'y a pas assez de billets de train, il n'y a pas assez de places disponibles et c'est trop cher. Et ce choix-là, c'est un choix public. C'est-à-dire que le gouvernement demande à SNCF que finalement, il subventionne le réseau par les usagers, par les voyageurs, plutôt que par le contribuable. C'est un choix politique. Il faudrait l'expliquer. Il est tout à fait, comment dire, légitime de la part d'un gouvernement, mais c'est bien celui-là. Et donc, il n'y a pas assez de rames parce qu'on en a mis trop au cimetière. Il y a pénurie de rames et les prix montent parce que maintenant, les prix sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. Et du coup, le gouvernement ne demande pas à la SNCF de tempérer un peu
en prenant une partie à sa charge.
Et ça génère 10 milliards de bénéfices d'ici 2030, ce qui va éviter au gouvernement d'en mettre autant. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'État et pour le contribuable, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les voyageurs. Il faut juste expliquer les choses.
Rappelez-nous, pour financer la dette de la SNCF ?
L'État a... Alors, il y a deux dettes de SNCF, oui. Reprendre. Il y a une dette qui est l'achat de ses propres matériels, ça, et puis il y a la dette d'infrastructure. Ouais. Celle-là, c'est une dette nationale. C'est 35 milliards que l'État a repris, mais c'est une dette nationale.
Jacques, en Savoie, quand je prends le train, je porte un badge passager en grève et je refuse systématiquement de montrer mon billet au contrôleur. Bon, alors, on ne sait pas comment ça se termine. Alors,
si le contrôleur est également en grève, mais assure quand même avec un brassard noir son travail, comme au Japon, finalement c'est peut-être une...
Allez, pour éviter grève et manifestation lors des JO de Paris, le gouvernement cède sur tout, le quoi qu'il en coûte n'est donc pas fini.
C'est pas surtout, mais
beaucoup quand même.
On peut changer la formule en disant c'est le quoi qu'il nous en coûte.
C'est ça. Allez, merci à vous tous. En tout cas, on a tous envie que les Jeux se passent bien, hein, et qu'il n'y ait pas de grève pendant les JO. Il est l'heure.
Allez, à Jacques Taest.
C'est ça. Allez, une citation latine pour finir. Merci. Allez, bonne soirée à tous. On se retrouve demain en direct à 17h30. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.